Radio Cité Genève. L'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 avec le directeur du musée d'art et d'histoire de Genève, Marc-Olivier Valère. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Viviane.
On se retrouve après combien d'années? La dernière fois qu'on a eu ce genre de conversation au micro de Radio Cité, c'était en
2009, au Palais de Tokyo.
Voilà, Palais de Tokyo à Paris, donc on est loin de tout ça.
On est très loin.
Oui, on va refaire un peu l'histoire. Donc, j'étais fascinée à l'époque par le parcours d'un jeune homme qui était à Neuchâtel et qui racontait que son rêve était d'ouvrir un magasin de sport. Bien loin de tout ça.
On est bien loin, mais par quelques détours, on n'est pas si loin. On n'est pas si loin que ça. C'est-à-dire que c'était un rêve très lointain, et comme beaucoup de rêves, on y tend. Après, c'est un objectif auquel on s'attache et on essaye d'y arriver par tous les moyens. Mais un jour, j'y arriverai au magasin de sport.
C'est vrai. Ah, c'était intéressant, c'est un scoop ça. Le directeur du musée d'art et d'histoire qui va ouvrir un magasin de sport. Nous voilà avec un scoop. Cher Marc-Olivier, on va refaire quand même un peu votre itinéraire dans cette première partie, parce que les auditeurs de l'époque ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui ou n'ont pas toujours en tête. Donc, vous étiez un jeune homme de Neuchâtel et un beau jour, vous débarquez à Paris, c'est ça?
Alors, j'étais à Neuchâtel et un beau jour, je débarque à New York d'abord.
À New York d'abord.
Voilà, j'ai fait Neuchâtel, New York. Et puis, je suis resté quelques années à New York, 6 ans. Et ensuite, j'ai débarqué à Paris.
Et là, qu'est-ce qui se passe à Paris? Parce que vous avez un choc, hein?
Oui, enfin, depuis New York, le choc était quand même amoindri, hein.
Oui.
On arrive dans un endroit qui est quand même un peu plus calme, hein, Paris,
oui,
que New York. Mais effectivement, là, j'avais dans les mains un instrument, un outil qui était absolument extraordinaire, ce Centre national d'art contemporain qui, quand je suis arrivé, mes prédécesseurs l'avaient créé.
Vous avez brûlé les étapes, mon cher
Nicolas Bourriaud.
Moi, ce que je voulais vous faire raconter, c'était votre découverte de Beaubourg quand vous étiez encore jeune.
Et avant tout,
votre parcours professionnel.
Alors là, effectivement, la première fois que je suis arrivé à Paris, j'ai pris le train, je devais avoir 16-17 ans. Je prends le train de nuit, hein, parce qu'il n'y avait pas de TGV à l'époque. J'arrive à 5h du matin. J'avais en tête cette fameuse chanson « Paris s'éveille ».
Ah oui.
Et voilà, je débarque et je marche absolument toute la journée. Je traverse Paris de long en large. Et en fin d'après-midi, j'arrive devant un bâtiment absolument extraordinaire, plein de couleurs, des escalators partout. Et donc, je me trouve en face de Beaubourg. Et Beaubourg a cette particularité que je trouve absolument extraordinaire. Ça a l'air de rien, mais c'était une trouvaille des architectes qui a changé énormément de choses. C'est-à-dire que pour accéder à Beaubourg, on ne monte pas, on descend. Il y a cette esplanade de Beaubourg qui descend très gentiment, sans qu'on s'en rende compte.
Donc ça amène vers l'entrée, en fait.
Ça amène à l'entrée, oui. Et à l'époque, Beaubourg, c'était encore ce que les architectes avaient imaginé, c'est-à-dire que c'était un lieu de passage. On passait d'une rue à l'autre. On pouvait aller à la poste en allant à Beaubourg, etc. Donc je me retrouve à l'intérieur, naturellement, un peu à l'intérieur de ce bâtiment. Et je prends les escalators et je me retrouve à l'intérieur des salles d'exposition. Mais je ne connaissais rien de l'art. Hein. Et à un moment donné, je me retrouve en face d'une peinture qui faisait 4 mètres de large, avec une espèce d'abstraction lyrique et des coulures de peinture. C'était un Pollock. Et là, je suis resté une heure.
Un choc.
Un choc. J'étais évidemment en larmes, un adolescent romantique comme ça. Donc non, ça, c'était une expérience assez extraordinaire.
Alors c'est ça qui, au fond, vous a un peu... Vous avez rêvé un jour d'être curateur, c'est ça?
Pas vraiment. En fait, non, au début, j'étais plutôt artiste. Cette découverte à Paris, ça a accompagné d'une découverte qui était un peu concomitante, qui arrivait en fait juste un peu avant. Je descendais les escaliers du château à Neuchâtel et je passe devant la galerie d'Ittesheim. Et curieux, je regarde par la fenêtre et je vois des peintures installées très avec des couleurs très pétantes comme ça. C'était Gérard Schneider, aussi un artiste des années 50, de l'abstraction lyrique parisienne. Et là, je tombe en pâmoison complet devant cette œuvre. Ensuite, accompagné de cette découverte à Paris de Pollock, donc... Évidemment, chez moi, je me suis mis à créer des peintures comme ça. J'avais aucune idée de l'histoire de l'art, sauf que c'était déjà fait 10 fois ou 200 fois par des artistes dans les années 50. Hein. Mais voilà, c'était ma passion. Je mettais de la peinture partout, etc.
Je me souviens que vous m'avez parlé de monochrome rouge dans notre.
Oui, alors on y vient. Alors, à un moment donné, j'essaye d'étudier tout ce qu'a fait Gérard Schneider. À un moment donné, je vois qu'il y a une exposition à Zurich. Alors je prends le train, j'arrive à Zurich, il y avait pas de Google Maps, donc j'étais avec une carte, j'essaie de trouver la galerie, je marche une heure et demie, je commence à être fatigué, je vois une galerie, je me dis tiens, c'est peut-être là. Je rentre dans la galerie, obscurité complète, et là j'étais fatigué, je vois un banc, je m'asseye. Et les yeux commencent à s'habituer à l'obscurité et une lumière comme ça, orange, bleu, jaune, commence à être claire, devenir claire dans mon esprit. Et j'étais en face d'un James Turrell. Et là, je me dis, non, Gérard Schneider, c'est vraiment... c'est nul James Turrell, c'est vraiment bien. Voilà. Et voilà, enfin, juste pour raconter que mon...
C'était progressif
et par découverte comme ça, mais des découvertes à chaque fois un peu physiques. Et je pensais être artiste, donc bon, j'ai à l'université, j'ai fait de l'histoire de l'art, mais surtout de la philosophie, de la littérature anglaise, de la muséologie. C'est par la philosophie que j'ai découvert l'art contemporain. Alors je lisais un livre de Arthur Danto qui expliquait en fait lui il se pose la question pourquoi un objet, je vous raconte ça parce que c'est resté l'obsession en fait qui m'habite encore aujourd'hui, pourquoi un objet tout d'un coup sans perdre son identité visuelle, hein, prenons je sais pas une table qui est un objet usuel, tout d'un coup se transforme en objet ordinaire. Sans changer d'avis.
Ça va être notre deuxième partie, si vous voulez bien,
voilà.
Jacques-Marc Olivier, parce que c'est un point très important.
Okay.
Et on va écouter, en attendant, qu'est-ce qu'on écoute alors ?
On écoute Portiched, SOS.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Where are those happy days? They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me, SOS? The love you gave me, nothing else can save me, SOS. When you're gone, so good. So
Vous êtes sur Radio Cité Genève avec Marc-Olivier Valère, le directeur du musée d'art et d'histoire, et nous abordons un point que je trouve très important. Comment est-ce qu'un objet devient un objet d'art, devient un objet de musée ? On pense à l'urinoir, évidemment.
Oui, oui, alors évidemment, c'est une question qui pour moi était une obsession un peu toute ma vie. J'ai découvert en étudiant l'esthétique analytique, notamment à l'université, j'avais des... faut savoir qu'à Neuchâtel, à un moment donné, c'était un des bastions de la philosophie analytique anglo-saxonne. On avait des professeurs invités, notamment en esthétique, esthétique analytique. Et là, j'ai découvert en fait les écrits de nombreux philosophes analytiques, dont Arthur Danto. Et Arthur Danto se pose cette question, hein, évidemment, cette question que tout le monde se pose depuis plus d'un siècle, depuis que Duchamp a retourné le gant, comme on dit, c'est-à-dire montrer les mécanismes à l'œuvre dans l'œuvre d'art.
C'est le fameux urinoir.
Le fameux urinoir et tous les autres objets, tous les autres ready-made. C'est-à-dire que tout d'un coup, un objet ordinaire peut être considéré comme une œuvre d'art. Alors, tout le monde essaye de l'expliquer. Une armée de philosophes depuis plus d'un siècle essaye d'expliquer ce processus et personne n'y arrive, en fait, en gros. Enfin, faut le dire.
Est-ce que c'est le regard qui change ?
Oui, c'est le regard, mais pourquoi le regard change ? C'est l'interprétation qui change, mais pourquoi cette interprétation change ? C'est, alors, je peux vous citer une vingtaine de facteurs qui sont cités par les philosophes. Après, il y a l'argument d'autorité, il y a l'argument institutionnel, il y a l'argument logique, ceci est... il y a évidemment le regardeur qui fait les tableaux, comme disait Marcel Duchamp. Il y a, c'est un peu comme un autre philosophe disait, c'est un peu comme la mayonnaise, hein, on connaît les ingrédients, il y a l'huile, il y a les œufs, il y a etc. Mais est-ce que la mayonnaise va prendre, hein? Voilà. Ensuite, il y a des gens qui disent, mais bon, c'est une œuvre d'art, oui, peut-être, mais c'est pas très compliqué. Est-ce que c'est une bonne œuvre d'art ? Alors là commence la vraie question.
Est-ce que c'est pas d'être exposé de façon individuelle dans un espace qui est un musée ? Le regard change déjà par cette approche pour le visiteur.
Oui, alors après, il y a d'autres musées qui présentent les objets d'une certaine manière où ces objets peuvent rester ce qu'ils sont. Tout dépend, enfin, vous voyez, c'est beaucoup plus...
Ça a dû beaucoup vous occuper.
C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Et moi, ce que j'essaye de faire depuis maintenant 30 ans, c'est de pointer en dehors du monde de l'art des façons de faire, des façons de dire, des façons de voir, qui permettent d'expliquer cette transfiguration. Alors, ce type de transfiguration existe ailleurs. En science-fiction, par exemple, si vous prenez Blade Runner ou les Invaders, les envahisseurs, à un moment donné, on regarde le film, et tout d'un coup, certaines personnes que l'on prenait pour des êtres humains deviennent autre chose, deviennent des réplicants, des robots, deviennent des envahisseurs, mais ils ne changent absolument pas d'aspect visuel. Voilà, il était un être humain et maintenant il devient, il acquiert un autre
Donc c'est
un
la
autre
charge
statut.
Que l'on met sur eux, c'est la charge c'est, intellectuelle. Que l'on
c'est
met sur
le,
eux.
Non, c'est, oui, c'est tout simplement le narratif qui fait que, à un moment donné, bon, par exemple dans le Blade Runner, il y a un questionnaire que le Blade Runner utilise pour essayer de décrypter. S'il a affaire à un être humain ou à un réplicant. Et ce qui est intéressant, c'est que le moment où il trouve qu'il est en face d'un réplicant, c'est un jeu de langage. C'est Turtle en anglais. sur une double utilisation de la tortue, et tout d'un coup le réplicant commence un peu à, on voit qu'il y a des bugs dans le cerveau, et là il sait qu'il est en face d'un réplicant. Mais c'est intéressant parce que c'est pas du tout un critère objectif, hein. C'est totalement subjectif, hein. Et c'est intéressant parce que c'est le narratif, hein. Et on est dans un système de croyances, hein. Et c'est, par exemple, la science-fiction est intéressante, la physique quantique est extrêmement intéressante, hein, aussi, parce que l'observation fait qu'on peut changer les résultats. La magie, pour moi, est intéressante. Enfin, la magie dans le sens de la prestidigitation, dans le sens où un bon tour de magie, c'est lorsque le magicien vous montre quelque chose. Alors on sait, il fait un tour de magie, on sait qu'il y a un truc, mais on est totalement abasourdi par l'espèce de magie qui vient de se produire. Donc il y a une sorte d'arc de tension, il y a une tension extrême entre le moment, la faculté de critique. On sait qu'on est en train de voir un truc, hein, il est en train de nous avoir, mais on est aussi totalement pris par la magie du tour. Donc on est un peu on est pris dans cet arc de tension, et plus cette tension est grande, plus le tour de magie est impressionnant. Et là, l'œuvre d'art, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire on sait qu'on voit, c'est une œuvre d'art. Alors on peut parler d'un ready-made, mais si on parle d'une peinture, il s'agit de pigments sur une toile. On sait qu'il s'agit de pigments sur une toile, mais en même temps, voilà, il y a une œuvre qui apparaît. Donc si la croyance n'est pas active, il n'y a pas d'œuvre d'art.
J'aurais bien envie de vous demander si être directeur de musée, à votre sens, à vous, ça veut être un peu magicien. Ça veut dire être un peu magicien, être un peu faiseur de tours.
Oui, il faut raconter des histoires, hein, c'est comme partout, quoi. Tout est une question de croyance, de narratif. Oui, c'est...
Écoute un peu de musique ?
On écoute un peu de musique.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute ?
On écoute Deep Purple, Smoke on the Water, alors une chanson qu'on connaît bien, mais elle est liée à la première exposition du nouveau programme qui s'appelait Walk on the Water, mais qui fait référence évidemment à ce moment de Smoke on the Water, qui était ce moment où le groupe Deep Purple se rend compte que le casino de Montreux est en flammes.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
êtes sur Radio Cité Genève avec le directeur du musée d'art et d'histoire de Genève, Marc-Olivier Valère. Marc-Olivier, on a vu que vous étiez un peu magicien, un peu faiseur de tours. Alors racontez-nous maintenant, le musée d'art et d'histoire, ça n'est plus du tout la même histoire que le palais de Tokyo à Paris. Vous étiez là dans ce que vous, j'allais dire, dans votre droit fil, dans l'art contemporain absolu, parce que c'était vraiment des découvertes pour tous les visiteurs. Aujourd'hui, vous êtes dans un musée d'art et d'histoire, ça a l'air d'être l'inverse. Racontez-nous ça.
Pour moi, c'est une continuité. C'est-à-dire, je me pose toujours la question de ce que peut être un lieu d'art. Ce que peut être un lieu qui apporte une réflexion, qui apporte un moment critique, etc. Que peut apporter ce lieu d'art aujourd'hui et que peut apporter ce lieu d'art demain ?
On va peut-être pour nos auditeurs, tous ne sont pas des visiteurs de musées, on va peut-être rappeler très rapidement l'ensemble des collections qui constituent ce musée, qui est très varié quand même.
Alors ce sont des collections très variées, c'est un musée patrimonial, mais surtout un musée, ce qu'on appelle encore encyclopédique. Donc nous avons des collections qui datent d'il y a 10, 15 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc on a des collections d'archéologie, on a des collections de numismatique, d'horlogerie, d'art appliqué, de collections d'instruments de musique, de peinture, sculpture évidemment, d'art graphique. Donc tout un champ de la création, et c'est ça qui est intéressant, un champ de la création de plusieurs millénaires. Alors si le palais de Tokyo pouvait être la maison des artistes, en quelque sorte, des artistes notamment contemporains, mais pas que, avec ce musée d'art et d'histoire, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas que des objets d'art. On a des objets d'art appliqué, des objets d'horlogerie, des pièces de monnaie, etc. Des objets, ce que j'appelle à valeur usuelle, des objets qui étaient dédiés à être utilisés. Et ce qui est intéressant, alors peut-être qu'on a affaire à des artisans, par exemple, dans ce cas-là, mais tout ce qui est rentré dans le musée, à mon avis, si c'est dans un musée, c'est que ça a été fait par des gens avec un esprit créatif. Et donc si le Palais de Tokyo était et est toujours la maison des artistes, le musée d'art et d'histoire est pour moi définitivement le musée de l'esprit créatif. Et ce qui est très intéressant, c'est pas simplement un axe horizontal qu'on peut avoir avec l'art contemporain, c'est un axe vertical. Hein, on est ancré dans l'histoire, on a 10 000 ans d'histoire qui nous regardent, mais avec ce défi que d'imaginer un musée qui a été conçu au début du XXe siècle, même avec un esprit lié au XIXe siècle, il faut maintenant apporter ce musée dans le XXIe siècle, avec ce challenge, ce défi extraordinaire d'ouvrir, parce qu'on réfléchit à une extension, une rénovation du musée qui doit ouvrir dans 10 ans, que peut-être un musée dans 10 ans. Et alors là, c'est extraordinaire parce qu'on se trouve à un moment de l'histoire où tout le monde, les gens du musée, tout le monde sait que dans 10 ans, le musée tel qu'on le connaît sera radicalement différent. Comment ce musée sera ? Personne ne le sait. Et donc, c'est là où je retrouve un peu cette pratique du contemporain, c'est-à-dire qu'il faut scanner l'ensemble des connaissances pour avoir cette sensation, cette sensibilité de ce qui se fait, de ce qui va se faire.
Marc-Olivier, quand vous parlez d'extension, vous parlez d'extension physique ou d'extension des collections ou d'extension dans l'ensemble ?
Extension physique, c'est-à-dire que nous avons 650 000 objets. On a à peu près 14 000 mètres carrés. Et on va quasiment doubler, jusqu'à 21 000 mètres carrés, en fait, pour avoir plus de place pour montrer les collections et surtout mettre notre bâtiment aux standards internationaux, standards muséaux,
voilà, etc.
Qu'on puisse exposer nos objets avec sécurité, je dirais.
C'est ça. Alors là, une question très importante. Tout le monde se souvient que le projet qui avait été porté par Jean-Claude Gandur a reçu une votation négative des des habitants de Genève. Alors là, comment procède-t-on? Parce que c'est un peu secret maintenant, la façon dont on fait ça.
Alors non, c'est pas très secret. Là,
enfin, c'est moins médiatisé.
Cette semaine, nous avons rencontré un certain nombre de commissions parlementaires. On en est encore à la phase technique où on évalue les besoins en termes techniques.
Est-ce qu'on a choisi un architecte?
Pas encore. Non. On n'a encore pas. Pour l'instant, on avance, c'est-à-dire en évaluant les besoins du musée en termes d'espace. Hein. On travaille avec le département des bâtiments de la ville de Genève et d'autres collaborateurs. Ça, c'est très important. C'est un travail extrêmement précis qui est en train d'être fait pour qu'ensuite on puisse rédiger le cahier des charges pour le concours d'architecte. Et ensuite, on va choisir l'architecte. Et ensuite, évidemment, tout ce travail devrait se faire. Une chose est sûre, c'est que le projet tel qu'on le conçoit sera complètement différent du projet précédent, qui était un projet d'architecte, quelque part.
Jean Nouvel.
Avec Jean Nouvel, oui. Avec une collection qui devait se joindre à la collection du musée. Ici, nous réfléchissons sur les enjeux de société, que sera Genève dans 2030. Nous avons ce musée qui est isolé, un peu comme une île au centre-ville. L'enjeu principal, c'est de relier ce musée à la ville. Donc il s'agit autant d'un projet pour les collections qu'un projet de développement urbain. C'est là le grand challenge.
Est-ce qu'on envisage de garder la cour intérieure? Parce que ça avait été l'un des sujets, si je puis dire, de discorde. On ne gardait pas la cour intérieure. Alors là, qu'est-ce qui se passe?
On touche à rien dans le bâtiment.
On touche à rien.
Le bâtiment, ça fait partie aussi du travail que je fais maintenant. Je mets en valeur la collection. C'est-à-dire que je fais des expositions quasiment à 100% avec les objets de la collection. Et je mets en valeur le bâtiment. On a déjà réouvert plus de 600 mètres carrés d'espace qui avait été fermé, des salons historiques absolument extraordinaires.
Pourquoi est-ce qu'ils étaient fermés ?
Aucune idée.
Ah bon ? C'est vos prédécesseurs ? Ça date de Jean-Yves Marin ou c'est bien avant ?
Ça date de... Oui, c'est des espaces qui étaient fermés depuis très longtemps, 10, 15, 20 ans.
Ah oui, donc avant Jean-Yves Marin.
Mais on découvre des espaces mais extraordinaires. Ce musée fait partie du patrimoine architectural genevois. Donc on va pas y toucher, on va l'étendre, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle toute l'île avec le bâtiment de la Hède, avec le bâtiment de la promenade du Pin. Tout ça va faire un ensemble. Il y a encore la butte de l'observatoire qui doit aussi être prise en compte. Donc tout ça, ça fait un ensemble. Mais ce que le plus important, c'est de mettre cet îlot, en quelque sorte, en contact, en lien étroit avec la ville, avec Rive, avec la vieille ville, etc.
Que ça ne soit plus une forteresse, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant comme musique?
Alors, on a une petite introduction avec Kill Bill, c'est un petit clin d'œil, parce que ça s'appelle As Your Leader.
Et après, on enchaînera alors rapidement avec De Zurich Sisters, on mettra tout de suite, ou vous préférez une autre?
On peut mettre Gogol Bordello juste après.
D'accord, alors on écoute avec grand plaisir.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juto.
As your leader, I encourage you from time to time, and always in a respectful manner, to question my logic. If you're unconvinced a particular plan of action I've decided is the wisest, tell me so. But allow me to convince you, and I promise you right here and now, no subject will ever be taboo. Except, of course, the subject that was just under discussion. The price you pay for bringing up either my Chinese or American heritage as a negative is, I collect your fucking head. Just like this fucker here.
このファック野郎と同じようにね。
Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time! I didn't think so.
Torni a casa, vai! Protect this generation from the raging Eastern faction. Market another British generation. Our 80s regurgitation. For more cultural inbreeding. For the garbage of repeating. To protect your generation from the Eastern faction.
Li 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 li, la 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 la, li 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 da ri da, da ri da da. Li 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 li, la 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 la, li 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 da ri da, da ri da da.
Labor force, but I beat the system everywhere I go. No matter how many times I get ordained, the message is still the same.
Li 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 li, la 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 la, li 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 li, da ri da, da ri da da.
Good morning, little school girl, good morning, all right. La 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 la, 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 la la la.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 avec le directeur du Musée d'art et d'histoire de Genève, Marc-Olivier Valère. Marc-Olivier, il y a eu un petit passage, il y a quelques mois, je crois, dans lequel vous avez un peu soulevé l'émoi de certains Genevois parce que vous aviez parlé de dormir dans le lit à côté de Ramsès II. Racontez-nous ça, parce que c'est drôle, quelque part.
Oui, en fait... Ramsès II, un des joyaux de notre collection, j'avais invité une curatrice pour inaugurer le nouveau programme.
Alors attendez, on va... Donc Ramsès II, vous aviez un lit, c'est ça, le lit de Ramsès II, ou c'était Ramsès II lui-même?
C'était Ramsès II lui-même, c'était une sculpture de Ramsès II.
D'accord.
Et derrière Ramsès II, la curatrice... qui a fait une exposition extraordinaire en prenant en compte 300-400 œuvres de la collection, a mis en scène certains moments de la collection et s'est intéressé à Ramsès pour une sorte de réinterprétation un peu pop, et a installé un lit à baldaquin derrière Ramsès, en référence évidemment à toute l'histoire hollywoodienne des films impliquant Ramsès.
Ça, ça n'a pas été très bien compris déjà, hein, le coup du baldaquin.
Ah oui,
derrière
Ramsès
II.
Ça pouvait, disons,
c'est ça vrai, a interpellé
susciter
certains,
quelques interprétations contradictoires, ce qui était le but, parce qu'une exposition, ce n'est jamais une interprétation, comme une bonne œuvre d'art, une bonne exposition suscite un certain nombre d'interprétations, et plus ce nombre d'interprétations est grand, plus l'œuvre ou l'exposition gagne, je dirais, en efficacité, en densité.
Mais en fait, c'est vrai que si on ne parle pas d'une exposition, si on ne la médiatise pas, si elle ne soulève pas de polémique, elle passe un peu à l'as, parce qu'il y en a beaucoup des expositions. Mais on va revenir à Ramsès II. Donc vous avez voulu dormir dans le lit à baldaquin, c'est
ben,
ça?
Voilà, il y a un lit dans le musée. Je me dis, l'occasion est trop belle pour ne pas essayer de passer la nuit dans le musée, d'autant plus que ce lit avec Ramsès se trouve dans la salle d'égyptologie, qui est une salle absolument extraordinaire avec des objets fabuleux. Et je dis, ben voilà, un peu dans la tradition, je dirais, du 19e siècle, où les conservateurs, où les gardiens de musée passaient quelquefois la nuit, hein, dans leur musée. Là, j'allais passer la nuit dans ce musée.
Je pose des questions un peu triviales, mais on vous a mis des draps, des couvertures. Comment ça s'est passé?
Alors, je suis arrivé. Alors, bon, il y avait déjà du velours. C'est tout un décor. Hein.
Donc, vous dormiez sur le lit ou dans le lit?
Sur le lit. J'ai apporté mon petit matelas portatif avec mes draps et mon oreiller.
D'accord, c'était prudent, probablement.
Voilà.
Et alors, je crois que vous aviez eu un dîner d'abord.
Moi, je pensais faire ça comme ça pour moi, hein, passer la nuit dans le musée, parce que j'en avais l'occasion. Et c'est vrai que le service de com a eu cette idée que je trouvais très sympathique de dire, pourquoi pas en profiter aussi pour faire un petit événement médiatique. Donc, on a invité quelques personnes.
Il y avait Sylvie Fleury,
il y avait Thomas Sue qui nous a joué.
Thomas Sue, je rappelle qu'il est à la tête de Genève Art.
Il y avait Gianni Motti, qui lui a un projet extraordinaire qui est de dormir dans les pyramides, notamment la pyramide de Khéops, mais là vraiment... C'est un projet qui est très sérieux. Hein.
Oui, il est en pourparler alors avec l'Égypte.
Il est en pourparler avec Paul Vessia, qui est en pourparler avec certains égyptologues, et certains musées, etc. Donc c'est un projet qui va se faire. Il veut dormir dans la chambre funéraire.
Ah oui.
Se mettre en contact avec...
On dit pourtant qu'il y a des effluves qui sont mauvais pour la santé.
Ça ne va pas arrêter Gianni Motti.
Bon. Quel était le menu, vous vous en souvenez? Parce que c'est étrange. Alors le menu, est-ce qu'il était aussi
Non, le menu n'était pas égyptien. Non, pas du tout.
Bon. Alors, vous avez bien dormi.
J'ai bien
dormi.
Mon
cher Marc-Olivier, vous avez bien dormi dans votre musée.
Je me suis réveillé à 3h du matin, j'ai pris ma lampe de poche, je me dis c'est l'occasion de faire un tour dans la salle d'égyptologie, voir s'il y a quelque chose qui se passait un peu comme ça.
Et là, il n'y a pas eu de miracle?
Rien du tout, non, j'étais très déçu.
Ramsès ne s'est pas manifesté.
J'ai pas été visité par des fantômes ou par la momie, parce qu'il y a une momie aussi.
Voilà.
Il y avait une momie dans cette salle.
Bon, alors ce qui s'est en revanche manifesté,
ce sont
les critiques.
C'est là.
Là, les critiques ont été assez véhémentes et ont confondu beaucoup de choses en fait, non? Parce que vous avez fait ça pour lancer votre exposition. Et c'est vrai que dans la mesure où ça faisait parler de l'exposition, ben ça amenait du monde, parce que les gens étaient curieux. Parce que des expositions sur l'égyptologie, il y en a eu des milliers à travers le monde. Tandis que là, tout d'un coup, vous faisiez venir les gens pour voir dans quel lit vous aviez dormi, pour voir comment ça s'était passé, pour respirer un peu de scandale. On en est là.
Oui, en fait, l'idée, c'était juste un événement qui était diffusé sur les réseaux sociaux. Donc ça... c'était pour un public assez ciblé, hein, un jeune public qui ne connaît rien à l'égyptologie, mais qui peut-être a vu les 10 commandements au cinéma ou sur Netflix, hein, qui connaît mieux Yul Brynner que Ramsès. Hein. Et donc c'était vraiment pour un jeune public sur les réseaux sociaux. Après, c'est toujours la même chose. On propose un événement qui implique une multitude d'interprétations. Voilà, Ramsès comme icône pop, plus que Ramsès comme instrument d'étude pour l'égyptologie, ça c'est sûr. On a plutôt mis l'accent là-dessus parce que le public était différent. Et ce public-là a adoré, hein, ça a eu un succès extraordinaire. Certains sont venus, n'étaient jamais venus au musée.
Alors ça, c'est un peu le but, en fait.
C'est le but, bien sûr, c'est le but. Moi, le but de en tant que directeur de musée, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu l'autre jour, quelqu'un qui me disait, mais moi, je suis venu avec ma fille de 14 ans voir votre première exposition. Eh bien, ma fille est revenue avec ses copines.
Voilà.
Je dis, c'est pour ça qu'on fait ce métier.
Exactement. Hein. Exactement.
Alors évidemment, après, les égyptologues me sont tombés dessus. Ils disent, oui, vous auriez pu inviter un égyptologue. Vous auriez quand même pu dire des choses un peu intelligentes au lieu de dire des âneries sur Ramsès. Hein, parce que parler d'Yul Brynner, forcément, c'est une ânerie. Alors oui, bien sûr. Ils ont raison. Mais c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, on ne peut plus parler avec un seul langage. C'est toujours ce que j'ai cherché, c'est de multiplier les langages. Multiplier, pour analyser une chose, il faut parler avec le langage, par exemple, de la science-fiction, de la magie, de la physique quantique, pour comprendre l'art ou l'art contemporain. Et c'est la même chose avec tout. Si on veut aujourd'hui comprendre l'égyptologie de manière plus compréhensible, l'égyptologie, c'est-à-dire l'égyptologie aujourd'hui, il faut évidemment étudier l'égyptologie, mais il faut comprendre que l'égyptologie aujourd'hui s'intègre dans un circuit beaucoup plus large de culture populaire, de musique, de, etc., etc. Ça participe de la connaissance aussi.
Vous avez dit à un moment, libérer le musée de ses hiérarchies aliénantes. Ça, je crois que ça aussi, ça a été une phrase qui a été beaucoup répétée, beaucoup, beaucoup écrite et beaucoup incomprise.
Oui, oui, parce que, évidemment, le musée se définissait comme le temple du savoir. Et le musée d'art et d'histoire, évidemment, s'est défini pendant très longtemps comme le temple du savoir, avec ses gardiens, hein, comme les gardiens du temple, que sont les historiens de l'art, qui ont la connaissance, qui peuvent dire ce qui est juste ou faux, qui donnent les instruments d'analyse, etc. Et donc, voilà, une œuvre doit être vue de cette manière-là. Rien à dire à l'encontre de ça, c'est vrai. Sauf que, une fois de plus, un musée peut être et doit être aujourd'hui autre chose, doit s'adapter à la société, la culture dans laquelle il s'intègre. Et donc un musée, c'est un temple du savoir, oui, mais c'est aussi autre chose. C'est un lieu de transmission, c'est un lieu social, c'est un lieu qui ne doit pas être intimidant. C'est un lieu qui doit casser les hiérarchies. Alors oui, on dit il faut conserver les hiérarchies parce que sinon on n'y comprend plus rien. Si tout se mélange, c'est la,
oui,
c'est la soupe
tout,
et puis on ne voit plus rien. Oui, peut-être, sauf qu'aujourd'hui, une fois de plus, que ce soit en philosophie, en littérature, en physique quantique ou dans d'autres domaines scientifiques, hein, on est obligé de mélanger, même en médecine. On dit oui, la médecine.
On décloisonne.
Regardez, en médecine, un podologue ne va pas parler à un otorhinolaryngologue. Ben oui, aujourd'hui, oui, pour comprendre pourquoi on a mal aux pieds, on va peut-être aller voir un spécialiste du sommeil. Ben, tout est lié aujourd'hui. Et là, je dirais, pour citer Tristan Garcia, qui est un philosophe qui est en lien avec beaucoup de choses qui se passent aussi dans la culture populaire, mais alors c'est un philosophe qu'on ne peut pas suspecter de s'intéresser au divertissement, il dit s'intéresser aux choses également, mais distinctement. Et ça, c'est important, également, c'est-à-dire sans hiérarchie, il n'y a pas de raison qu'une peinture soit plus importante qu'une pièce de monnaie, quelque part, hein, mais distinctement, c'est-à-dire qu'une peinture a d'autres critères, d'autres facteurs, etc., etc. Donc, toute la question est là.
On va écouter un peu de musique après ces questions bien importantes.
Alors, on écoute un peu de yodel, des Zurich Sisters. Alors, on dit yodel, c'est lié à la Suisse voire à l'Autriche, mais pas du tout. Hein. Le yodel, c'est un mouvement planétaire qui date de la nuit des temps. Et là, on a un peu de la musique country par deux sœurs. Alors, vous allez entendre la musique un peu en enregistrement un peu vieillot, mais voilà, c'était enregistré il y a très longtemps.
Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Lives the light of great ambition, who had set as his life's mission to excel upon his own initiative. And he played a little tune on his Spanish guitar. He'd mingle with the song, the sweet refrain. In the evening in the cactus, he would get a lot of practice on his as his cattle he was trailing, you would always hear him wailing on his yodel. One
once a big shot from the city heard him warble in the ditty, and a company was a little too. Then he said, "Look here, my sonny, you can make a lot of money with the other little." And he'd play a little tune on his Spanish guitar. He'd mingle with a song that we could play. Then our hero took the dip and packed his whip and took a trip and soon was singing o'er the radio. If the Swiss heard what he's earning, green with envy they'd be turning when he soon he met a little maiden who was talent who was laden, and she fell for him like flowers for the dew. And he wished not to evade her, and he used to serenade her with his yodelay-de-day-de-day-de-doo. And he'd play a little tune on his Spanish guitar. He'd mingle with a song that we could sing.
Nous sommes sur Radio Cité Genève 92.2 avec Marc-Olivier Valère, le directeur du Musée d'art et d'histoire de Genève. Marc-Olivier, sur quelle perspective voulez-vous emmener maintenant votre musée ?
Alors, moi, j'aimerais que les gens, tous les gens, puissent venir au musée, quelle que soit leur culture, leur a priori, etc. Et c'est extrêmement difficile, c'est quelque chose à laquelle je travaille depuis plus de 30 ans. Pourquoi on viendrait au musée ? Alors, à Genève, tous ceux qui ont eu la chance de venir en famille, de venir avec leur classe pour découvrir la salle des armures, pour découvrir notre fameux Konrad Witz, qui est une sorte d'icône, évidemment, du musée. C'est très bien, ils ont quelques outils à leur disposition pour apprécier les objets que l'on montre. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance-là.
C'est aussi et qui ont le sentiment qu'ils ne sont pas légitimes.
Voilà, et c'est aussi un peu mon histoire. Moi, je viens d'un milieu où il n'y a pas cet intérêt pour les musées.
On ne vous y a pas emmené quand vous étiez petit, en clair.
On ne m'y a pas emmené. Mais la curiosité a fait que je suis tombé un peu par hasard sur des choses qui m'ont emmené ailleurs. Et c'est ça que j'aimerais. J'aimerais que les gens puissent venir au musée un peu par hasard.
En se disant, un peu en s'y promenant, au fond.
Voilà, je vais à la poste et je me retrouve au musée. Moi, c'est ça que j'aimerais. J'ai besoin d'un service, je ne sais pas, un écrivain public ou voilà, je dois faire ma déclaration d'impôt et je vais à un endroit et je me retrouve au musée. Ou je vais aller boire un verre parce que c'est sympa. Au Palais de Tokyo, par exemple, on allait faire du skateboard. On allait faire du skateboard, ensuite on allait boire un verre, c'était ouvert jusqu'à minuit. Alors peut-être qu'on faisait ça 10 fois, et la 11e fois, on était en bonne compagnie, on voulait faire un peu le malin, et puis on vient avec cette personne.
C'est comme ça que vous avez attrapé les jeunes.
Et voilà, et après on découvre une exposition, mais un peu par hasard. Et je pense que c'est très important parce que la culture, si ce n'est pas la culture populaire, une culture...
C'est de l'entre-soi.
Voilà, une culture telle que les beaux-arts, telle qu'un musée encyclopédique, une fois de plus. Le bâtiment est très intimidant. Moi, j'y comprends rien.
Alors, comment vous allez l'ouvrir sur l'extérieur ?
Alors, c'est tout le projet du nouveau musée. C'est un projet urbain, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'est toujours posé la question d'un musée. Alors, quand on parle d'un nouveau musée, d'une extension, on réfléchit en termes d'architecture. Et puis on s'y dit, bon, on fait une belle enveloppe, et puis qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur ? Voilà. En gros, la réflexion s'arrête là. C'est-à-dire, ensuite, on a toujours le même modèle. On a une belle architecture, on ouvre la porte, on a la billetterie à droite. À gauche, on a la boutique. Plus loin de la billetterie, on a le restaurant. Ensuite, on monte les marches et on arrive à la culture. Et donc tout ça, c'est oui, il y a des hiérarchies, et c'est toujours le même modèle. Mais c'est un modèle de consommation. C'est-à-dire qu'on paye une entrée, on va à la boutique, tout ce qui est consommation, c'est au rez-de-chaussée, c'est un peu le modèle Guggenheim, hein, à l'époque on traversait même la boutique pour ensuite arriver dans les expositions. Mais on arrive dans les expositions avec un modèle d'interprétation qui est basé sur la consommation. Et de quelle manière...
On veut vous vendre quelque chose.
Voilà, de quelle manière ça implique l'interprétation que l'on va avoir lorsqu'on voit des œuvres. Et ça, je trouve quand même assez bizarre. Hein. Enfin, en tout cas, c'est pas neutre. Hein. Moi, je rêve d'un musée où, tout d'un coup, les choses se mélangent. On est en ville, on voit quelque chose, on ne sait pas si c'est une œuvre ou pas. On a un moment de tension, un peu comme le ready-made, et c'est à nous de décider si ça tombe du côté de l'œuvre d'art ou si ça tombe du côté de l'objet ordinaire. Non, on n'a pas les gardiens du temple pour nous le dire, mais on peut mettre si on met les choses en scène d'une certaine façon, on peut, et chacun peut le faire, et chacun a ses propres clés pour décider si ça tombe du côté de l'œuvre d'art, si ça tombe du côté de l'objet ordinaire, et de quelle manière on va interpréter ces objets. Et ça n'a pas besoin que ça arrive une fois qu'on a payé son entrée, qu'on a monté les marches et puis qu'on mérite un peu cette culture. Ça peut commencer au moment où on est en ville. Imaginez que vous êtes à Rives, vous êtes au bord du lac, vous voyez quelque chose, je ne sais pas, il y a un appel visuel qui fait que tiens, il y a des bancs, je vais peut-être aller boire un verre là, etc. Il y a du monde, on y va. Et petit à petit, on est confronté à des choses qui nous sortent de l'ordinaire.
Est-ce que ce qu'on voit sur les bords du lac, le stop qui se remplit de détritus, peu à peu, vous l'avez vu ? Est-ce que ça pourrait être une extension du musée ? Vous avez vu, il y a une sorte de sculpture creuse, transparente.
Ah oui, d'accord, oui, tout à fait, oui, oui. Voilà. Oui, oui, alors après, il y a des choses qui nous semblent naturelles, mais avec un regard plus acéré, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait naturel. Et peut-être qu'effectivement, c'est que ça reste un objet ordinaire, c'était pensé par la voirie pour un usage assez précis, ou pas, ou les deux. C'est ça qui est intéressant. C'est
donc que... vous imaginez avoir en ville des rappels ou des points d'interrogation qui ramèneraient vers le musée, qui amèneraient le grand public vers le musée.
Oui, ce qui m'intéresserait, c'est cette idée que le musée, c'est pas de poser des leurres comme ça pour amener le public au musée, c'est cette idée du musée qui peut être partout. Et alors idéalement, alors là, on parle d'un idéal, c'est que l'esprit du musée, finalement, s'intègre dans le tissu urbain et que c'est l'expérience que j'ai quand j'étais à New York, j'ai invité des artistes, on faisait des tours de la ville, eux voyaient des choses que je ne voyais pas, ils voyaient des choses qui étaient absolument extraordinaires, mais c'était des objets ordinaires, c'était une corniche, c'était une fenêtre, hein, etc. Et tout d'un coup, la ville s'illumine de quelque chose avec un regard, un œuf. Et si le musée, par exemple, peut amener ce regard sur la ville... C'était extraordinaire parce que ça force les gens à voir les choses de manière un peu plus acérée et puis surtout qu'un objet puisse avoir deux interprétations, voire trois ou quatre ou cinq, et tout d'un coup, c'est un monde magique qui s'illumine.
Exigeant, ça, vous vous en rendez compte, exigeant. Vous
mais non, c'est pas exigeant. Regarde un film de science-fiction. On le fait, ce travail, naturellement.
Vous demandez d'avoir un œil de photographe, en fait. Parce que c'est ça, un photographe, tout à coup, sur une bord de corniche, sur n'importe quel détail... Il va se poser, en quelque sorte.
Oui, mais
l'enfant
le fait. Chaque enfant, vous vous promenez qu'un enfant, il va pointer à des choses. Il dit, j'ai jamais vu ça, comment ça se fait ?
C'est vrai.
Donc chacun le fait, il faut qu'on retrouve finalement cette sensibilité.
Beaucoup de choses à prévoir, beaucoup de choses à rêver. Mon cher Marc-Olivier, on vient malheureusement au terme de cette émission. C'est beaucoup trop court. Il faudra que vous reveniez.
Je vais revenir, Viviane.
Et on ne va pas attendre 9 ans cette fois-ci. On est d'accord ?
On est d'accord.
C'est promis.
Promis juré.
Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce temps au micro de Radio Cité Genève. Et merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistrés. Et à bientôt.
À bientôt.
À très bientôt.
Merci.